À trois jours de la fin du procès de l'affaire dite de Tarnac, on se rapproche des réquisitions et de ce qui est normalement le clou du spectacle judiciaire, le moment où les peines seront prononcées. Ce sera le 12 avril. Mais dans ce procès, les sanctions sont déjà tombées en fait depuis longtemps. 10 années, et peut-être encore d'autres, d'exposition médiatique, c'est surtout ça la peine pour des gens qui n'avaient surtout pas envie de ça. Devoir passer son temps à se justifier de cette affaire, à penser à cette affaire, à répondre de terrorisme et de groupuscules d'ultra-gauche, c'est surtout ça la peine et elle est déjà appliquée depuis longtemps. Ce mardi, des témoins de la défense ont été appelés à la barre. Dans la matinée, avec d'abord des témoins de la gendarmerie, de la SNCF et de la police ferroviaire, on a pu comprendre que la circulation de l'information avait été très bizarre le samedi 8 novembre 2008, ce qui va plutôt dans le sens d'une interférence de la police qui aurait voulu maîtriser l'info dans la matinée pour pouvoir incriminer Hildune et Julien. Après, un autre témoin cité par la défense a joué plutôt contre la thèse de la défense. C'était un policier de la brigade fluviale, manifestement fin connaisseur du cours des rivières et précisément de la Marne. Il a estimé que des tubes ont très bien pu rester un an au fond du cours d'eau, sous le pont, près du sabotage, sans en bouger, alors que la reconstitution de vendredi avait plutôt décrédibilisé la thèse du procureur. Dans l'après-midi, ce fut au tour de David Dufresne. Il était à la fondation du site internet Mediapart en 2008 et il a plongé dans l'affaire dite de Tarnac au point d'en sortir un livre très documenté, Tarnac, magasin général. David Dufresne a eu de très nombreux échanges avec Thierry Fragnoli, le juge d'instruction chargé de l'affaire au début, et avec des policiers de la sous-direction antiterroriste et de la DCRI qui ont construit le groupe dit de Tarnac. En 2 heures, relancé par les avocats de la défense, il a détaillé comment la police a assemblé des éléments pour fabriquer un groupe terroriste et comment certains services ont fait pression sur d'autres pour aller très vite. Depuis la suggestion d'Amazon qui a proposé à l'associé de Alain Bauer « Vous avez aimé un livre sur Action Directe ? Voici un autre produit qui pourrait vous intéresser, l'insurrection qui vient. » Jusqu'aux manipulations d'un policier de la DCRI qui est devenu obsédé par Mathieu et Julien au point de mettre des morceaux de leur vie privée sur des blogs, David Dufresne a raconté ce qu'il avait déjà raconté dans son livre paru en 2012. Il a été précis sur le fonctionnement de la sous-direction antiterroriste du parquet de Paris, la SDAT, expliquant comment, par exemple, elle sait, au besoin, faire apparaître un numéro de téléphone portable dans un relevé d'antenne relais alors que le téléphone était ailleurs. Il a insisté aussi, un peu de sociologie, sur le grand malaise chez les policiers de la base, conscient de faire un sale boulot orienté politiquement sous les ordres de chefs sans scrupules. Écoutons David Dufresne. Pourquoi vous avez accepté cette invitation à témoigner ?
Ça me semblait logique d'aller au bout de la logique, c'est-à-dire après avoir travaillé 3-4 ans sur cette affaire et d'avoir fait le mieux possible, le plus possible. Là, il y avait l'idée, d'aller au bout, dans la mesure où d'aller au bout en toute, j'allais dire toute tranquillité, dans le sens où, j'étais témoin, donc j'avais pas de stress particulier, j'avais rien à défendre, rien à vendre. Sauf peut-être à restituer mon enquête de l'époque, qui, je crois, était autant à charge qu'à décharge pour tout le monde. Et ce qui n'a pas été le cas dans cette affaire. Donc on m'a demandé de venir témoigner. Je l'ai fait de bonne grâce, quoi. Et aussi parce que je pense que la figure du journaliste neutre, hors de tout, ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire qu'on a des comptes à rendre quand même. Notre travail a une incidence. On a bien vu là dans l'enquête de personnalité des prévenus à la fin, tous ceux qui ne peuvent pas trouver de travail parce que la presse a titré ceci ou cela. Donc il n'y a pas de journalisme innocent. Donc il n'y a pas de raison de se défausser quand la justice vous demande de venir. Et je remarque que la présidente a eu la gentillesse de me rappeler le code pénal disant que j'ai le droit de taire mes sources. Ce qui est quand même, si vous voulez, vous commencez un témoignage avec ça, ça se passe bien, quoi.
Vous avez dit à la barre que vous avez arrêté le métier de journaliste sur cette affaire, finalement.
Oui, disons que je l'ai arrêté au sens commun du terme. Et j'ai fait le deuil, en tout cas, de l'actualité, même si je lis toujours beaucoup. Mais
ça veut dire quoi, faire le deuil de l'actualité, pour un journaliste ?
Ah bah ça veut dire d'arrêter le journalisme au sens traiter l'actualité immédiate, quoi. Pourquoi ? Parce que justement, cette affaire, mais ça aurait pu être plein d'autres, mais cette affaire, pour moi, a été révélatrice de quelque chose qui fonctionne mal. Et c'était il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'en plus, il y a 10 ans, il y avait encore... L'effet d'urgence qui était déjà là, depuis, a été décuplé. Donc aujourd'hui, une affaire Tarnac aujourd'hui exploserait aujourd'hui, ce serait, j'imagine que les conséquences seraient encore plus dévastatrices par l'effet des réseaux sociaux, par l'effet de l'urgence, de la peur du ratage, de la paresse, de l'incompétence, de la rapidité, de la voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, j'arrête de marcher dans cette combine. Donc ça a été ça l'affaire pour moi, si vous voulez. Après, il y a dans le journalisme des choses que je continue à revendiquer, c'est-à-dire le regard, aller partout, fouiner, enquêter, ça me plaît toujours. Mais par contre, le compte-rendu, la précipitation, la vitesse avec laquelle il faut opérer, non, ça ne m'intéresse plus du tout. Et pour moi, l'affaire de Tarnac, c'était vraiment symptomatique. Enfin, ce que j'ai cité à la barre, ce récit, comme on dit dans les rédactions à Paris, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit des images, qui n'est pas sur place et qui raconte ce qu'il croit s'être passé. Le récit de France Télévisions, du journal de 13h, c'était quand même... ils étaient tapis dans l'ombre d'une épicerie. Ce qui déjà... linguistiquement, syntaxe...
Il s'était retranché là, dans cette épicerie, tapis dans l'ombre.
Voilà, il vivait là. Voilà.
Audrey Goutard, France 2.
C'est ça. Une terrible phrase. C'est quoi cette phrase ? C'est une mésinterprétation de la réalité, mésinterprétation policière de la réalité, qui ensuite se retrouve comme ça dans une rédaction parce que la pauvre journaliste, on la tire du lit un 11 novembre, jour férié, j'imagine, quoi, elle arrive à sa rédaction, il faut se précipiter, etc. Et voilà, on a cette phrase-là. Et ensuite, on a Libération, qui a plus le temps, qui va titrer l'ultra-gauche déraille, etc. Moi, ça me fait d'autant plus mal que j'ai servi ce journal et que je sais d'où il vient, etc. Là, il y a eu un effet d'écœurement, quoi. Un effet d'écœurement, c'était l'affaire qui, voilà, révélait que, pour moi, c'était fini.
C'était David Dufresne, ancien journaliste à Mediapart, qui a quitté sa profession de journaliste après l'affaire dite de Tarnac et qui en a fait un livre. Il a témoigné hier devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris à la demande des prévenus. Les prévenus qui ont terminé la journée en répondant poliment aux questions sur leur personnalité de la présidente. Encore un moment étrange où, après t'avoir exposé, mis à nu, ridiculisé et présenté comme un dangereux monstre, l'État te demande tranquillement « Au fait, t'es qui, toi ?»